Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien, avec Thomas Etier.
Bonjour, ici Thomas Etier, journaliste pour Média Ténois. Bienvenue à Territoire d'info, votre bulletin de nouvelles francophones pour savoir ce qui se passe au territoire du Nord-Ouest et un peu partout dans le Grand Nord canadien. Et voici ce qui a retenu notre attention cette semaine. Plusieurs résidents de Yellowknife, incluant la mairesse et Backup North, ont réagi aux propos émis ce lundi par le conseiller municipal Nils Kange, qui a comparé la preuve de vaccination à l'interdiction qui était imposée aux personnes noires de s'asseoir à l'avant des autobus. Le conseil municipal de Yellowknife votera lundi prochain, 8 novembre, pour ou contre l'implantation d'une politique de preuve de vaccination pour accéder aux installations municipales. Après sa récente défaite en cour d'appel, la Commission scolaire francophone des territoires du Nord-Ouest se tourne vers la Cour suprême du Canada. Thomas Chabot nous parle du nouveau prix Christine McLeod qui sera décerné en 2022 à un ou à une jeune leader autochtone. Et finalement, je m'entretiens avec le réalisateur français Christian Monnier à propos de son nouveau film « Saturn » à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est présenté dans le cadre du Festival international du film de Yellowknife. Un débat sur la preuve vaccinale a généré la controverse cette semaine du côté du conseil municipal de Yellowknife. Le conseiller Nils Kange a comparé ce système qui est proposé aux organisations du territoire à des politiques racistes selon lesquelles il était interdit pour les personnes noires de certaines villes nord-américaines de s'asseoir à l'avant d'un autobus.
The GNWT policies that they're coming up with are creating classes of people, and it is in a community like Yellowknife, it hurts, and I'm angry about it.
Les conseillers municipaux voteront lundi prochain, 8 novembre, afin de déterminer si les résidents de la capitale qui ont fait le choix de ne pas se faire vacciner pourront fréquenter les installations municipales, comme la piscine ou le multiplex, par exemple. C'est notamment dans le but d'accueillir davantage de résidents dans ces établissements, qui sont considérés comme des lieux à haut risque de transmission, que l'administration propose d'y exiger le document. L'adhésion au système de preuve vaccinale permet à une organisation de faire passer la capacité maximale de son établissement de 25 à 50 personnes. Une majorité des conseillers de la capitale, soit 4 contre 3, s'opposent à une telle mesure et ont indiqué lundi dernier, dans le cadre d'une rencontre du conseil, qu'ils voteront contre la proposition. Une telle règle serait injuste à leurs yeux pour les contribuables qui ont fait le choix de ne pas se faire vacciner et qui veulent fréquenter les installations municipales.
What the debate is on is fairness, discrimination.
Comme l'a entre autres affirmé la conseillère Stacy Smith, ce débat en serait un sur la discrimination. Comme d'autres de ses collègues, la conseillère Stacy Smith voit ce débat comme un débat sur la discrimination. Trois voix se sont toutefois portées à la défense de la preuve vaccinale, incluant celle de la mairesse Rebecca Alty. Ils ont fait valoir que cette règle vise à protéger la santé publique et que tout résident, et incluant les résidents immunodéprimés et les jeunes enfants non vaccinés, ont droit de fréquenter ces établissements sans craindre de se faire transmettre la COVID-19.
The reality is that people's personal decisions affects lots of other people in this case. That's what public health means.
Comme l'a souligné la conseillère Shauna Morgan, les décisions et choix personnels des uns peuvent mettre d'autres personnes en danger. Notons que la Commission des droits de la personne des territoires du Nord-Ouest a publié en octobre une déclaration concernant les politiques de vaccination et passeports vaccinaux obligatoires. On peut y lire qu'une personne qui fait le choix de ne pas se faire vacciner pour des raisons personnelles ou pour une croyance qui lui est propre n'est pas protégée par la loi sur les droits de la personne des TNO et ne peut demander une adaptation en vertu de la loi.
You know, I mean, I don't think we have to go back very far, and there was people in Canada who would sit at the front of the bus, and we would, you know, they weren't allowed to sit there. It wasn't for them. And I think we're doing the same thing here, and it.
Le conseiller Nils Kange a ainsi utilisé sa tribune publique pour comparer la preuve vaccinale à l'interdiction pour certaines personnes de s'asseoir à l'avant d'un autobus. Des propos qui évoquent les politiques racistes imposées jusque dans les années 1950. Au lendemain de la rencontre, sans nommer le conseiller, la mairesse Rebecca Alty a publié un message sur Facebook dans lequel elle condamne ses propos. Comparer une politique de santé publique à une politique raciste, peut-on lire, est complètement inacceptable. Les mesures de santé publique sont en place pour la santé et la sécurité des résidents. Elle poursuit ainsi, Les gens peuvent être en désaccord quant à l'efficacité de ces mesures, mais l'intention derrière une telle politique demeure la santé et la sécurité des résidents. Au jour de la rencontre du conseil municipal, seule la conseillère Shauna Morgan s'est indignée de ce commentaire.
I just have to be honest and say that I have been feeling nauseous at some of the comparisons that have been made between the current experiences of people who are unvaccinated and historically groups that have been systematically oppressed because of their race, because of their culture.
J'ai eu la nausée en entendant les comparaisons faites entre l'expérience vécue par les gens non vaccinés et l'oppression systémique vécue par certains groupes en raison de leur race ou de leur culture, a déclaré la conseillère Shauna Morgan.
I think that is a really inaccurate and inappropriate comparison to make and could be, you know, profoundly disrespectful to people and groups who have historically suffered from systemic oppression.
Je crois que cette comparaison inappropriée et inexacte peut être profondément irrespectueuse pour les personnes qui ont souffert d'oppression systémique. Dans un communiqué de presse émis le 2 novembre, la Coalition de défense des Noirs des territoires du Nord-Ouest a fortement condamné les remarques du conseiller et exigé qu'il présente des excuses publiques et qu'il s'éduque sur les enjeux vécus par les communautés raciales. Il est inacceptable pour un individu qui sert une communauté constituée de Noirs, d'Autochtones et d'autres groupes racialisés d'être à plusieurs reprises mal informé de leurs histoires, peut-on lire. Le conseiller Nils Kange a annoncé le mardi 2 novembre sur les ondes de Cabin Radio qu'il compte présenter des excuses officielles lors de la prochaine rencontre du conseil municipal. C'est la seconde fois cet automne que le conseiller est pointé pour des propos inappropriés impliquant des groupes victimes d'oppression. En septembre, M. Kange a comparé les propriétaires des petites entreprises de Yellowknife affectées par la pandémie, dont il défendait alors les intérêts, aux victimes des pensionnats autochtones.
Like that struggle that the homeless people are going through, the business community, the small business community in Yellowknife is very much feeling that same struggle in terms of survival every day right now during COVID. They're getting shut down by forces way beyond them, kind of like the 60s group, right? Government side, we're going to take these Aboriginal children and we're going to take them away. These small businesses are being shut down by government.
Les petites entreprises de Yellowknife sont forcées à la fermeture par des forces qui les dépassent largement, un peu comme ce fut le cas lors des rafles des années 60, a déclaré le conseiller Nils Kange. De la même manière que le gouvernement a enlevé les enfants autochtones, le gouvernement fait fermer ces petites entreprises. Le conseiller a présenté de brèves excuses au cours de la même rencontre. La mairesse Rebecca Alty a annoncé cette semaine que l'ensemble du conseil municipal suivra bientôt une formation sur la sensibilisation culturelle. Les résidents et organisations de Yellowknife sont invités à se prononcer lundi prochain, le 8 novembre, devant le conseil municipal, quant à la proposition d'implanter une politique de preuve de vaccination pour permettre l'accès aux installations de la municipalité. Deux points de vue fondamentaux s'opposent du côté des conseillers municipaux. D'un côté, on juge que tous les contribuables, incluant ceux qui font le choix de ne pas se faire vacciner, devraient avoir le droit d'accéder aux installations municipales, comme la piscine ou le multiplex, par exemple. Du côté adverse, on avance que tous les résidents, incluant les personnes immunodéprimées et les enfants non vaccinés, ont droit d'accéder en toute sécurité à ces installations sans craindre de se faire transmettre le virus.
Right now, the data that we have is that the vaccine is protective. It significantly reduces instances of hospitalization and it does reduce spread.
Le conseiller Julian Morse est en faveur de la preuve de vaccination.
If we allow unvaccinated individuals to access facilities and intermingle with vaccinated individuals, healthcare experts are telling us this puts everybody at higher risk.
La décision de ne pas se faire vacciner a des implications, a souligné M. Morse. Il a été démontré que les risques d'attraper et de transmettre la COVID-19 sont plus élevés pour les personnes non vaccinées. Si on leur permet de fréquenter les établissements, les experts nous disent que cela met tout le monde à risque. M. Morse appelle aussi ses collègues à aligner leurs décisions sur les recommandations de l'administratrice en chef de la santé publique des territoires du Nord-Ouest.
Seeing this council start to go in a direction which deviates from CPHO direction, I find pretty deeply concerning.
Voir ce conseil municipal dévier des recommandations de la santé publique est à mes yeux profondément préoccupant, a affirmé M. Morse. M. Morse répondait ainsi aux arguments de ses collègues qui ont avancé qu'une telle règle aurait pour effet de diviser la population, voire même d'ostraciser les personnes qui ont fait le choix de ne pas se faire vacciner.
This is about implementing mandates that we will purposely discriminate against people or segregate people.
Le conseiller Steve Payne est de cet avis.
I'm upset about this, and it's detrimental for people's mental health and their physical health. We're denying people at the worst time of year. We're going into winter. This is where people are at their lowest, and this is when facilities, sports facilities, and city facilities mean the most for people.
Cette situation me fâche. Elle est néfaste à la santé mentale et physique des résidents, a avancé le conseiller Steve Payne, en faisant valoir l'importance des installations sportives pour plusieurs résidents, spécialement durant la saison hivernale. Comme d'autres de ses collègues, M. Payne s'est montré perplexe face aux ordres et recommandations émis par la santé publique.
This also gives us a false sense of security. COVID is here and it's here to stay. I don't know why we haven't just
Cette mesure nous donne un faux sentiment de sécurité, avance-t-il. Je ne sais pas pourquoi nous n'avons pas simplement... Le conseiller n'a pas terminé sa phrase.
We're going to have to learn to live with this, and we're going to have to carry on with society. This has decimated our economy. This has decimated our town. There's how many businesses have closed over this?
Il a poursuivi en disant que la COVID-19 est là pour rester et nous devrons apprendre à vivre avec. Cette situation décime notre économie. Je n'appuie absolument pas une obligation de vaccination. Le simple fait que nous en parlions me fâche.
I don't know anything about really any of the medical stuff, but I'm not voting on the medical stuff.
Je ne connais rien de tous ces trucs médicaux, a déclaré la conseillère Stacey Smith, mais je ne vote pas sur des trucs médicaux. Elle a ensuite exprimé son inquiétude face à ce qu'elle conçoit comme une séparation de la population.
By saying, yeah, we're going to have the haves go in there and the have-nots can. And we're heading down a road where history seems to repeat itself repeatedly, but we just give it a new name.
Nous empruntons un chemin où l'histoire semble se répéter encore une fois, mais nous lui donnons simplement un autre nom, a avancé la conseillère Stacey Smith sans toutefois préciser sa pensée.
We remember that this is a public health issue and not about, you know, demonizing anyone or saying that anybody is a bad person, or this is about creating the safest possible facilities that we can in a responsible way.
Aux yeux de la conseillère Shauna Morgan, il ne s'agit pas de discriminer qui que ce soit, il s'agit plutôt de créer un environnement sécuritaire pour tous les résidents, et ce, de manière responsable.
I also know, you know, parents who are scared to take their unvaccinated children who are under 12 to places like recreation facilities.
La conseillère Shauna Morgan dit connaître des parents qui craignent de fréquenter les installations municipales d'ici à ce qu'ils aient l'assurance que leurs enfants interagiront avec des personnes qui sont vaccinées. La Commission scolaire francophone des territoires du Nord-Ouest a annoncé le 2 novembre qu'elle compte demander à la Cour suprême de se pencher sur la cause qu'elle a récemment perdue en cour d'appel. À l'origine, cette cause, qui est portée depuis 2019, concerne l'admission d'élèves de parents non ayant droit dans les écoles francophones du territoire. Or, selon les commissaires, au-delà de cet enjeu initial, ce dernier jugement aurait eu pour effet d'affaiblir les droits des communautés francophones minoritaires à travers le pays. Pour en discuter, j'ai au bout du fil le président de la CSFTNO, Simon Cloutier. D'abord, M. Cloutier, vous aviez environ un mois et demi à la commission scolaire pour décider de ce que vous alliez faire de cette décision de la Cour d'appel. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous tourner vers la Cour suprême du Canada?
Bien, c'est sûr que ce qui est arrivé, c'est que suite à la décision de la Cour d'appel, évidemment, notre équipe juridique a lu attentivement le jugement et nous a donné un avis juridique. Donc, le Conseil des commissaires s'est réuni, puis à ce moment-là, la décision a été prise là, de demander à la Cour d'appel de nous entendre. Puis la raison principale pourquoi on demande, c'est que personnellement, on trouve que le jugement là, de la Cour d'appel va beaucoup trop loin, parce qu'au-delà des familles impliquées là, dans le recours, bien maintenant, la Cour d'appel vient dire que les gouvernements, dans le fond, n'ont pratiquement plus à tenir en compte, là, n'ont pas à tenir en compte de l'article 23 de la Charte lorsqu'ils ont des décisions à prendre concernant nos écoles francophones. Donc ça pour nous là, c'est un point majeur, puis c'est important là. C'est pour ça qu'on demande à la Cour suprême là, d'entendre notre cause.
La première ministre, Caroline Cochrane, qui était ministre de l'Éducation là, au moment où vous avez d'abord porté cette affaire devant les tribunaux là, pour une première fois, avait déclaré en septembre dernier qu'elle souhaitait collaborer avec la commission scolaire francophone des TNO, exprimer une certaine bonne foi quant à la suite des choses. Il y a d'ailleurs eu des changements au règlement en faveur de la commission scolaire. On peut comprendre que cette bonne entente avec le gouvernement actuel ne suffira pas?
Bien, ce qui est important de comprendre, c'est deux choses. D'ailleurs, nous avons présentement une excellente collaboration avec le gouvernement, puis on n'a absolument aucun problème de ce côté-là. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que lorsqu'on parle d'un jugement comme ça, bien, on n'est pas à l'abri de n'importe quel changement politique, ou peut-être qu'une nouvelle vision, une nouvelle personne pourrait interpréter justement le dernier jugement de la Cour d'appel d'une façon à nuire à la commission scolaire. Puis nous, c'est ça qui nous fait peur d'une part, mais aussi c'est important de comprendre que lorsqu'il y a des jugements comme ça qui viennent aussi servir de jurisprudence dans d'autres causes juridiques, ben ce jugement-là pourrait potentiellement avoir un impact ailleurs au pays. Puis c'est pour ça qu'on le fait, puis c'est pour ça qu'on demande à la Cour suprême d'intervenir, parce que c'est un jugement qui pourrait avoir des conséquences graves pour les communautés francophones en situation minoritaire.
Et si la CSF TNO devait, tout ça est encore théorique, la demande a été soumise à la Cour suprême, si la CSF TNO devait gagner en Cour suprême, qu'est-ce que ça pourrait changer dans le reste du pays? Est-ce que ce sont des enjeux qui sont courants dans le reste du Canada?
Bien, premièrement, c'est dur de spéculer si, d'un, si la Cour va accepter de nous entendre, puis de deux, quel sera le jugement que la Cour va rendre. Donc, je peux pas vraiment spéculer là-dessus. Par contre, je dirais que en termes, si on parle simplement en termes d'admission, je pense que présentement, là, à part les TNO, là, il n'y a pas grands endroits au Canada où les conseils scolaires, là, soit locaux, régionaux, provinciaux, territoriaux, n'ont pas des ententes déjà avec leur gouvernement pour la gestion de l'admission des non-ayants droit dans ces juridictions-là. Par contre, comme je disais, c'est la cause va beaucoup plus loin que ça. C'est plus simplement une cause qui concerne l'admission des non-ayants droit, c'est une cause qui concerne l'article 23 de la Charte, puis prendre en considération le triple objet de l'achat de l'article dans les décisions que chaque gouvernement provincial ou territorial doit prendre concernant les écoles francophones ou les francophones en situation minoritaire. Il faut toujours voir à plus long terme, puis à plus long terme, c'est là que des gouvernements pourraient tenter d'utiliser ce jugement-là à leur faveur, puis venir enfreindre, dans le fond, les droits des francophones en situation minoritaire, que ce soit au territoire du Nord-Ouest ou ailleurs au Canada.
Et pour terminer, M. Cloutier, il y a une demande qui va être faite pour avoir une certaine représentation francophone du côté des juges de la Cour suprême, ce qui n'était pas le cas du côté des juges de la Cour d'appel des territoires du Nord-Ouest là, dans le cadre du dernier jugement. Est-ce que c'est une question de principe ou vraiment on juge que ça pourrait avoir un impact sur la décision finale de la Cour suprême?
Potentiellement, puis c'est pour ça qu'on le demande. T'sais, vous savez, à la base, quand on regarde ça avec un peu de recul, là, nous avons le droit linguistique, comme francophone au TNO, d'aller devant la Cour en français. C'est un droit. Le droit est là. On y a droit. Puis en plus, là, on parle d'une cause juridique qui implique des droits linguistiques, parce que c'est une cause juridique pour la commission scolaire francophone. Donc, on éduque des enfants en français, donc c'est une cause linguistique. Puis, malgré tout ça, notre droit à recourir à ces services-là en français n'a pas été permis parce qu'il y a un manque de juges francophones à la Cour d'appel des TNO. Donc, c'est pour ça que c'est un deuxième volet à la demande qui est faite à la Cour suprême du Canada pour lui dire, écoutez, il y a vraiment un problème au TNO, c'est pas la première fois que ça arrive, on a un droit linguistique qu'on ne peut pas exercer à cause de ça. Puis pour votre question concernant l'impact que ça aurait pu avoir dans le jugement ou pas, bien, c'est difficile de dire, mais il y a une chose qu'on sait, c'est que quand notre avocat plaide devant la cour en français, puis que ça s'est traduit simultanément par quelqu'un, puis que plusieurs personnes sur place qui écoutaient la traduction ont eu de la difficulté à comprendre, on peut présumer que certains mots ou certaines tournures de phrases qui ont peut-être pas été bien comprises par les juges, puis est-ce que ça a eu un impact ou pas? Je ne sais pas, je n'étais pas là, c'est pas moi qui ai jugé, je peux pas répondre. Mais je veux dire, il y a toujours un risque. Si on arrête, si la commission scolaire avait pu plaider en français devant des juges en français tel que c'est notre droit de le faire, ben on se poserait pas la question aujourd'hui. C'est une partie qui a été ajoutée aussi à la demande à la Cour suprême de regarder ça, puisqu'on juge que c'est important. Puis on sait que, encore une fois, on n'est pas unique, là. Au TNO, dans cette situation-là, c'est une situation qui se répète là, un peu partout à travers le Canada. Donc, ça serait peut-être important que la Cour se penche là-dessus. Là.
Et Simon Cloutier, président de la Commission scolaire francophone des territoires du Nord-Ouest, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci.
Le prix Christine McLeod sera décerné à partir de 2022 par le ministère des Finances à des leaders autochtones émergents. Thomas Chabot est au bout du fil pour nous parler de cette nouvelle distinction qui a été baptisée en l'honneur de la chef adjointe du Conseil tribal Gwich'in, qui a laissé un énorme vide cette année dans toute la communauté ténoise.
Vous l'avez dit, Thomas, le prix Christine McLeod, nommé à la mémoire de Mme McLeod, décédée dans un accident de voiture en août dernier, sera remis à des leaders autochtones en début de carrière ou en milieu de carrière. C'est en collaboration avec le Conseil tribal des Gwich'in que ce prix a vu le jour. Les récipiendaires recevront une bourse de 5 000 $ afin de les aider dans leurs études supérieures ou dans leur développement professionnel. Alors, en ce qui concerne les critères de sélection pour ce nouveau prix, ils se fondent sur les accomplissements professionnels ainsi que l'expérience prouvée en leadership des candidats. Alors, les candidatures sont ouvertes aux résidents autochtones des territoires du Nord-Ouest travaillant depuis 5 à 10 ans au sein d'une administration communautaire, territoriale, fédérale ou autochtone. Les candidatures sont aussi acceptées pour des résidents ayant récemment été élus dans un poste de leadership dans l'une des administrations précédemment nommées. Alors, une attention particulière sera donnée aux candidats qui sont prêts à relever des défis de 1, qui sont audacieux et qui sont créatifs aussi dans leur processus de pensée. D'autres critères seront pris en compte par le ministère des Finances dans le processus de sélection des candidats, notamment l'intérêt de respecter et de préserver les connaissances et les modes de vie traditionnels des collectivités autochtones. La première ministre des Territoires du Nord-Ouest, Caroline Cochrane, s'est dite honorée de créer ce prix qui perpétuera la mémoire de Mme McLeod et commémorera son apport très riche au peuple Gwich'in.
Thomas, c'est donc une initiative qui vise à développer les talents de direction de la jeunesse autochtone ténoise. En bref, revenons à Christine McLeod, qui a vraiment une feuille de route impressionnante. Là, elle a un long passé d'implication communautaire. Oui. Racontez-nous un peu son parcours, Thomas.
Impressionnant, c'est le bon terme. Effectivement, Mme McLeod a débuté sa carrière au sein du gouvernement des territoires du Nord-Ouest en 2011 dans le département des finances en tant qu'analyste financière. En 2016, elle passe au département de l'infrastructure en tant que directrice de la planification financière ainsi que de la budgétisation avant de retourner en 2018 au département des finances pour y diriger la planification financière. C'est en septembre 2020 que Christine McLeod est élue chef adjointe du conseil tribal des Gwich'in. Ce n'est cependant pas le début de son engagement envers le peuple Gwich'in. Durant son adolescence, elle a été élue présidente du conseil jeunesse NITAT avant d'aboutir vice-présidente de la société Izikaikitat et présidente de la société de règlement des Gwich'in. Madame McLeod s'est aussi impliquée au niveau territorial. Elle a été trésorière de l'Association de patinage artistique des territoires du Nord-Ouest pendant 6 ans et trésorière du club de patinage de Yellowknife pendant 3 ans. Le grand chef du conseil tribal des Gwich'in, qui connaissait très bien Mme Christine McLeod, Ken Kikavichik, a décrit Christine McLeod comme un modèle pour toutes les jeunes femmes autochtones des territoires du Nord-Ouest. Peu avant son élection en tant que chef adjointe du conseil tribal des Gwich'in en 2020, Mme McLeod avait confié en entrevue avec le journal local d'Inuvik, Le Drum, vouloir se présenter pour montrer aux femmes de sa famille ainsi qu'aux femmes Gwich'in qu'il était possible de réussir sans avoir à choisir entre une famille et une carrière. Et c'est le 8 août dernier que Mme McLeod, à 38 ans, périt dans un accident de voiture à 20 km au nord d'Inuvik.
Thomas, je débutais la conversation en parlant d'un vide immense. C'est un legs immense et impressionnant que laisse Mme McLeod à toutes les collectivités des territoires du Nord-Ouest. Thomas Chabot, merci beaucoup.
Je vous en prie.
La production française et canadienne « Ça tourne à Saint-Pierre-et-Miquelon » sera présentée du 3 au 8 novembre dans le cadre du Festival international du film de Yellowknife. Tournée sur l'archipel français à 12 km des côtes de Terre-Neuve, cette comédie met en scène une actrice parisienne profondément urbaine qui apprend malgré elle à vivre au rythme de ses songes, de ses tourments et d'une culture insulaire qui est située à des lieues de la mondanité parisienne. J'ai eu la chance d'en discuter la semaine dernière avec le réalisateur Christian Monnier. D'abord, M. Monnier, pourquoi Saint-Pierre et Miquelon? Je disais, il n'y a pas beaucoup de films qui ont été tournés sur l'archipel. Là, maintenant, il y en a un nouveau qui va être présenté au Festival international du film de Yellowknife. Alors voilà, c'est ma question. Pourquoi avoir choisi Saint-Pierre et Miquelon?
Eh bien, déjà, bonjour à tous. Je suis très fier de pouvoir discuter avec vous dans le nord du Canada. C'est un immense plaisir pour moi, c'est vrai. Et alors, pourquoi Saint-Pierre et Miquelon? Parce que j'ai eu la chance de tourner un court-métrage à Saint-Pierre-et-Miquelon qui s'appelle Jenna, qu'on a tourné il y a à peu près 3 ans ou 4 ans, je sais plus. C'est mon producteur français qui m'a emmené à Saint-Pierre-et-Miquelon parce qu'il avait l'habitude des territoires d'outre-mer par rapport à la France. Et on cherchait un territoire un petit peu enclavé, un territoire un petit peu exotique aussi pour les Français et pas très loin du Canada, parce que moi j'essaye de monter des projets avec le Canada. Donc Jenna, c'est l'histoire d'une jeune femme transgenre qui a réussi à éclore, si on peut dire, au Canada, au Québec, et qui revient à Saint-Pierre-et-Miquelon pour essayer de refaire la paix avec sa famille. Donc c'est vraiment une histoire d'amour filial. On a très bien été accueillis, on s'est fait beaucoup d'amis, et que je partais sur ce nouveau projet avec très très peu d'argent, je me suis dit, bon allez, c'est peut-être un peu fou de partir faire un long métrage sans fric à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais je sais que sur place, j'aurai un bel accueil et j'aurai le soutien pour des décors, pour beaucoup de choses, des habitants et peut-être aussi des institutions. Donc c'est pour ça qu'on est parti à Saint-Pierre-et-Miquelon, voilà, qui est un territoire qui fait rêver un peu pour les Français aussi. Cette petite terre, ce petit bout de terre française en Amérique du Nord, ça fait rêver. Comme tous les francophones en Amérique du Nord, ça fait rêver les Français de toute façon.
Et revenons au film qui est présenté à Yellowknife, là, au public des territoires du Nord-Ouest. Plusieurs personnes, plusieurs expatriés au territoire du Nord-Ouest se reconnaîtront sans doute dans l'héroïne de votre film, bon, qui arrive de la métropole, qui est prise, pour ainsi dire, là, sur l'archipel, là, sur un coin très reculé. Donc, oui, comment est-ce que vous pensez que le public ténois va se reconnaître dans ce film-là?
Moi, quand j'ai écrit ce film avec ma co-scénariste Sheila O'Connor, c'est la petite rousse qui jouait dans La Boum. Je ne sais pas si vous vous rappelez de La Boum avec Sophie Marceau. Quand on a écrit « Ça tourne à Saint-Pierre-et-Miquelon », comme je savais que je n'avais pas beaucoup d'argent et que je voulais tourner à tout prix ce film, j'ai dit à Sheila, écoute, on part sur un projet, je n'ai pas d'argent, mais on va essayer de s'amuser, de se faire du bien. Donc, on va essayer d'offrir au public un divertissement, un peu différent peut-être des autres films, en toute modestie, qui amène donc un peu de sourire, du rire si on a tant mieux, en tout cas du sourire, une découverte d'un territoire que tout le monde ne connaît pas, Saint-Pierre-et-Miquelon, et puis avec une petite partie au Canada, avec la fin qui se déroule à Toronto, et puis de l'émotion à la fin du film. Donc, j'ai envie de dire que ce cocktail-là, il est un peu universel. Du sourire, du dépaysement, du voyage, de l'émotion. J'imagine que ça peut plaire à beaucoup de gens. Après, pour les expatriés, je sais pas, c'est difficile de répondre à cette question. J'ai envie de dire oui, parce que c'est l'histoire d'un personnage, en tout cas, qui va se perdre un peu sur cette île pour trouver une réponse très profonde auquel elle pensait pas avoir accès, en tout cas, personnelle. C'est sûr. Elle est engagée par un réalisateur qui est un peu fou pour tourner un film mystérieux qui sera le nouveau chef-d'œuvre de ce réalisateur. Et quand elle arrive sur l'île, à Saint-Pierre-et-Miquelon, il n'y a pas d'équipe de tournage. Enfin, il y a un ingé son et puis une petite régisseuse. Et elle s'aperçoit très vite qu'elle va jamais tourner ce film, mais elle va découvrir plein d'autres choses, notamment les habitants de l'archipel, et puis se découvrir elle-même. Donc, c'est une quête identitaire. Je ne sais pas si les gens qui vont dans les territoires du Nord sont en recherche de quête identitaire. J'imagine qu'on l'est un peu tous. Alors, ma foi.
Sur le plan de la quête identitaire, je pense que plusieurs spectateurs vont se reconnaître dans l'héroïne de votre film.
Les gens qui sont à Yellowknife, ils viennent quoi? Principalement du Québec ou y a une forte population francophone dans les territoires du Nord?
Bon, les gens viennent d'un peu partout. Il y a peut-être 2 500 à 3 000 francophones au territoire du Nord-Ouest qui arrivent du Québec, mais de la France, comme vous. Là, et justement, je voulais vous demander qu'est-ce qui vous attire au Canada. Là, vous dites avoir quelques projets futurs qui sont en suspens. Là. Est-ce qu'on va bientôt avoir droit à un nouveau film canadien de Christian Monnier?
Moi, je suis venu au Canada il y a 7 ans pour... découvrir un peu différents endroits pour un film, pour un projet de long métrage. J'ai été donc un peu au Québec, j'ai été en Alberta, en Colombie-Britannique, et à un moment donné, mon distributeur, qui s'appelle Michael Mosca, qui est de Montréal, m'a dit va faire un tour à Sudbury, parce que c'est une ville avec des grandes cheminées, il y a un côté industriel qui est certainement peut-être très intéressant pour ton film. Et donc j'ai été à Sudbury et j'ai rencontré Jason Ross Jallet, qui est producteur là-bas, et puis Mathieu Seguin, qui est un chef opérateur. Ils sont tous les deux francophones. Enfin, ils parlent plus anglais que français, mais à la base ils sont francophones. Pour les embêter, j'arrête pas de leur rappeler. Je leur dis parlez-moi français. À la base, vous êtes francophone, nom de Dieu. et donc oui, j'en ai profité à Sudbury pour les revoir avec grand plaisir parce que ce sont des amis. Et pour parler d'un nouveau projet, enfin toujours le même projet pour lequel je les avais rencontrés il y a 7 ans et que j'essaye de remettre sur les rails là et que j'espère tourner dans 1 an en Ontario, faire une petite partie française et puis le reste en Ontario. C'est un film qui s'appellerait Niagara Falls. Voilà, une histoire assez touchante d'une fille et d'une mère. Et je suis en train de rencontrer des comédiens enfin des comédiennes surtout pour ce film. Donc je suis en train de terminer le scénario. Donc on serre très fort les doigts, on y croit. Moi je fais le maximum et voilà, ça sera un film à petit budget, mais ça peut être un très très beau film. Voilà, qui j'espère j'espère qu'on arrivera à le monter. En tout cas, c'est très important pour moi. C'est un peu l'histoire de ma femme en plus. Donc tout ça c'est très, c'est un film qui compte.
Ben, je pense qu'on espère voir ça dans les prochaines années. Revenons à votre dernier film, ça tourne à Saint-Pierre-et-Miquelon. Comment est-ce que ça se passe, un tournage sur l'archipel?
Sur l'archipel, pour nous, ça s'est très bien passé, parce que ça s'était très bien passé pour mon court-métrage précédent, Jenna. Je n'étais pas arrivé en conquérant, je n'étais pas Marco Polo. je suis arrivé en profil bas, j'ai été les voir d'abord avant de faire le film. Ça je parle de Jenna. Donc du coup non, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, pour sa tournée à Saint-Pierre-et-Miquelon, ça s'est très bien passé. On a reçu vraiment un grand soutien de la population, et en plus ils étaient contents, je pense, qu'on montre leur archipel en été, parce que Jenna je l'avais fait en hiver, donc c'est un peu classique, montrer un territoire du Nord comme ça, enfin c'est beaucoup plus bas que chez vous, mais pour nous ça reste un territoire un peu au Nord, en hiver c'est assez classique, et là de montrer la beauté des paysages en été, eux ils étaient très contents effectivement, parce que comme vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas eu beaucoup de films tournés à Saint-Pierre-et-Miquelon, donc non, ils étaient contents. Alors ils n'ont pas vu le film encore. On fera comme on a décalé d'une année à cause de ce maudit Covid la sortie du film, on va sortir en mai 2022 en France. On fera une avant-première à Saint-Pierre-et-Miquelon début d'année l'année prochaine. On verra s'ils me jettent des tomates ou s'ils nous jettent à la mer avec du goudron et des plumes. On verra. Mais j'ai bon espoir, je pense pas.
Eh bien, Christian Monnier, les gens de WAMP me disaient justement qu'on aimerait voir davantage de de production au territoire du Nord-Ouest. Donc, on a très hâte de vous voir dans le Grand Nord, sait-on jamais.
Avec grand plaisir. Envoyez-moi des photos de Yellowknife. Envoyez-moi, je vais regarder un petit peu. Je vais regarder comment c'est chez vous. Je vais m'intéresser.
Bien, ça ne passe pas dans l'oreille d'un sourd. Christian Monnier, réalisateur de « Ça tourne à Saint-Pierre et Miquelon » qui est présenté ce week-end dans le cadre du Festival international du film de Yellowknife. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Avec grand plaisir. Et puis, voilà, alors cette année, je sais que c'est en virtuel, mais bon, je dis à tous les spectateurs, n'oubliez pas de retourner dans les salles quand c'est possible, parce que c'est grâce à vous que les films vivent. C'est grâce à la salle, grâce aux spectateurs. C'est grâce à vous qu'on arrive à faire des films un peu différents, un peu indépendants, je veux dire. Et voilà, en tout cas, merci aux spectateurs d'être toujours présents dans les festivals.
Et voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et on vous retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour une autre émission Territoire d'Info. Je suis Thomas Etier, journaliste de l'Initiative du journalisme local pour Médias Ténois. Je vous souhaite une excellente fin de journée.
Territoire d'Info. Une émission de l'Initiative du journalisme local financée par le Fonds canadien de la radio communautaire.